Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est à l'université d'été du MEDEF que j'ai rencontré François-Xavier Huille. Il y était comme président du MEDEF de Ré-Loire. J'ai voulu qu'il explique à nos auditeurs ce qu'était le MEDEF et en quoi consistait sa fonction de président en Eure-et-Loire. C'est pourquoi je le remercie d'avoir accepté mon invitation. François-Xavier Huille, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors tout d'abord, nos auditeurs ont beaucoup entendu parler du MEDEF, puisque à la fin du mois d'août, il y avait cette rencontre d'université. Alors d'abord, qu'est-ce que signifie MEDEF et qu'est-ce que c'est que le MEDEF ?
Alors MEDEF, comme beaucoup de gens l'ignorent, signifie Mouvement des entreprises de France. Et je dis bien des entreprises et non pas des chefs d'entreprise, comme on le fait croire, certains journalistes bien intentionnés le font croire. Il s'agit donc d'un syndicat sur le plan national qui est capable de négocier des accords interprofessionnels, c'est-à-dire qui couvre tous les secteurs, un accord sur l'assurance chômage, un accord sur la formation. Et au niveau local, il ne s'agit que entre guillemets, d'associations loi 1901, qui ont deux rôles principaux, un de lobbying bien connu, c'est-à-dire de fournir au pouvoir public, notamment aux enseignants, à tous les corps constitués du département, une représentation des entreprises, et également, ne l'oublions pas parce que c'est souvent un peu occulté, en Eure-et-Loire, nous avons 400 mandats à tenir de par la loi en tant que représentants des entreprises. Nous sommes à l'URSSAF, nous sommes dans les comités départementaux fiscaux, nous sommes à la CCI bien sûr, nous sommes dans les tribunaux de commerce, nous sommes... Et tout ça, ce sont des mandats que doivent assurer une représentation des entreprises. Donc le MEDEF local, accessoirement régional, accomplit ce rôle. Le MEDEF national étant un syndicat.
Alors si vous voulez bien, on va revenir au mouvement, au MEDEF général en quelque sorte.
National.
Et vous allez nous expliquer un petit peu, nous présenter ce qu'est ce mouvement national.
Alors le MEDEF national est...
Quel est son but en quelque
sorte?
Oui,
est constitué, il faut peut-être parler de ses constituants, si je puis dire, qui sont les fédérations professionnelles. Exemple, l'UMM, la métallurgie, est adhérent du MEDEF national, la Fédération française du bâtiment, tout à fait issu de la métallurgie,
exactement. Et vous êtes vice-président
UMM Eure-et-Loire. Donc toutes les fédérations, la banque, l'assurance, etc., adhèrent à ce MEDEF national. Donc un droit de vote, et c'est important puisque c'est cette assemblée qui élit le président du MEDEF. On n'est pas forcément très démocratique au MEDEF, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les chefs d'entreprise de France qui élisent le président du MEDEF. Il s'agit de grands électeurs que sont les représentants des fédérations. Et deuxième partie...
D'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'il y a eu une élection il n'y a pas longtemps.
Oui.
Donc, on va y revenir.
Tout à fait. Et deuxième partie très importante, 124 MEDEF territoriaux, qui sont des MEDEF départementaux et les MEDEF régionaux. Vous comptez en gros 100 départements avec l'outre-mer. Vous avez 100 MEDEF territoriaux et 24-26 régions avec l'outre-mer. En gros, vous avez les MEDEF territoriaux qui ont le même poids que les fédérations. Donc le MEDEF sert essentiellement à négocier avec les syndicats de salariés, les 5 syndicats dits représentatifs de par la loi, des accords qui sont censés couvrir la totalité des entreprises, qu'elles soient adhérentes ou non d'ailleurs, puisque c'est ça qui est un peu paradoxal. Alors je vais rentrer un peu dans le détail.
Oui, ça c'est intéressant.
Un accord qui est signé, je vais peut-être revenir sur le plan local pour encore mieux comprendre. Le MEDEF local d'Eure-et-Loire, ou celui des autres départements, n'a aucun pouvoir pour signer quoi que ce soit avec quelques syndicats de salariés que ce soit. Par contre, ses branches, l'UMM, la Fédération française du bâtiment, les deux principales auxquelles je pense, eux ont le statut de syndicat et tous les ans sont censés négocier avec les syndicats du département des accords qui concernent l'ancienneté, des accords qui concernent les salaires minima par catégorie, des accords qui concernent la prime de panier, et tout simplement la convention collective du territoire d'Eure-et-Loire pour l'industrie de la métallurgie. Même chose pour le bâtiment. Donc, l'UMM Eure-et-Loire négocie...
Redites-nous UMM ce que ça veut dire.
Union des industries des métiers de la métallurgie. Ce qui auparavant voulait dire Union des industries métallurgiques et minières. Inutile de vous dire que le mot mine date un peu, mais c'est bien, ils ont gardé l'origine. Je rappelle, mais je crois que les gens de plus de 40 ans le sauront, que le MEDEF n'est que le successeur du CNPF, qui s'appelait, et je crois que c'est important de le dire, Conseil national du patronat français. Ernest-Antoine Sellière a voulu, à son intronisation comme président, changer le nom, et le logo d'ailleurs, et l'appeler Mouvement des entreprises de France. C'est important parce que, dans ce terme, on comprend mieux le fonctionnement d'une organisation comme ça. Il ne s'agit pas du tout d'un club de patrons. Parce que des clubs de patrons, on peut en créer où on veut. Il n'y a pas besoin d'aller au MEDEF, de payer des cotisations.
Parce que pour faire partie, il faut payer les entreprises.
Alors les entreprises payent, mais pas les chefs d'entreprise. Mais en fait, cette cotisation n'est pas complètement gratuite. Ça leur permet, enfin d'abord, elle n'est pas très élevée, à mon avis. Mais surtout, ça leur permet d'accéder à des services gratuits, de conseils juridiques, fiscaux, d'avoir accès parfois, et je connais chez l'entreprise en Eure-et-Loire à qui c'est arrivé d'avoir des graves problèmes avec des contrôles fiscaux qui se passaient très mal, d'accéder directement à Bercy, au ministère, grâce à l'entremise du MEDEF, qui, par définition, sont proches des cabinets ministériels, puisqu'ils discutent en permanence des lois, des futures lois, un peu moins depuis 2 ans, je dois
dire. D'ailleurs, nous avons vu M. Gattaz recevoir et M. Valls et M. Sapin.
Mais ils se connaissent parfaitement, et heureusement, parce que ça veut dire qu'il y a un dialogue, ça veut dire... Parce que si on ne se parlait pas, je ne suis pas sûr que les choses aillent beaucoup mieux qu'elles ne vont aujourd'hui.
Alors, vous parliez de Ernest-Antoine Sellière. Donc, lui, il a été président en 1998.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, c'était le président, donc...
Qui a succédé à Jean Gandois, qui est parti dans des conditions terribles. Enfin, qui a démissionné, puisqu'il avait l'impression de s'être fait avoir, c'est lui qui le dit, par Martine Aubry, son ex-salarié dans le groupe Péchiney. Il faut savoir que Martine Aubry... était la DRH du groupe, ou quasiment DRH du groupe Péchiney, que Jean Gandois avait embauché, croyons bien faire, en disant comme ça, elle va mieux comprendre l'entreprise. Et bah, 2 ans après, elle était ministre et elle a fait la loi que vous connaissez, et qui a tellement ulcéré le pauvre Jean Gandois qu'il en est parti et qu'il s'est fait oublier. Alors Ernest-Antoine Sellière est arrivé sur cette atmosphère-là, inutile de dire que c'est quelqu'un de dynamique. Je précise d'ailleurs que c'est un ancien énarque et qu'il était... tout à fait proche de Lionel Jospin. Ils ont commencé tous les deux dans le même bureau du Quai d'Orsay. Et les mauvaises langues que j'ai entendues, notamment à Sciences Po Paris, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur les gens avec ça, disaient qu'ils jouaient tous les deux du saxophone debout sur le bureau du Quai d'Orsay et que c'était de joyeux de riz. L'histoire. Alors l'un a choisi la haute finance dans sa famille, et l'autre a choisi, et c'est tout à son honneur, de quitter le corps du Quai d'Orsay pour aller enseigner l'économie dans un lycée de banlieue.
Alors,
il y a des vocations.
A succédé à Sellière, Laurence Parisot.
Oui, bien connu.
Laurence Parisot.
Qui est restée 8 ans, 2 mandats.
Elle a même demandé...
Oui, alors là, ça a été diversement apprécié, puisque les statuts du MEDEF disent très curieusement d'ailleurs, mais ça ne date pas d'hier et ça ne date pas de Laurence Parisot, 5 ans, éventuellement en deuxième mandat, 3 ans, que Laurence Parisot a fait. Ce qui est un peu critiquable en soi, pourquoi 5, pourquoi 3, enfin pourquoi pas 2 fois 3, bref. L'ennui, c'est que Laurence Parisot a voulu faire changer les statuts 6 mois avant la date.
Oui, c'était pas
elle l'aurait fait au début de son premier mandat, tout le monde l'aurait accepté. Mais là, c'est un petit peu délicat. Et d'ailleurs, effectivement, Pierre Gattaz lui a succédé. Il était d'ailleurs le seul candidat avec 95% des voix. Score soviétique, enfin de nature soviétique. Mais bon, cela dit,
en 2013,
lui a dit et redit et écrit qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans. Nous verrons. En tout cas, il le dit.
Ce serait bien qu'il en soit de même pour les présidents de la République.
Oui, parfois.
Pour 7 ans.
Ça éviterait tout problème après.
Alors, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de nous dire comment est structuré le MEDEF.
Ah bien, le MEDEF.
Son organisation.
Le MEDEF a à peu près 200 salariés permanents. C'est assez important. Dont 2/3 de cadres, c'est-à-dire qu'il s'agit de compétences très pointues dans les domaines juridiques, évidemment, droit du travail, mais. Pas seulement dans le domaine des... Par exemple, il y a 3 personnes en permanence en relation avec les députés et sénateurs. Ils sont en permanence. Il faut imaginer une seconde, parce que d'ailleurs, nous organisons, nous, MEDEF Eure-et-Loire et d'autres, mais c'était à notre initiative.
Oui. Parce que vous organisez quelque chose vraiment très bien, puisque vous aviez aussi eu M. Gattaz dans vos murs.
Oui, lors de notre Assemblée Générale, ça nous a fait plaisir, parce qu'habituellement, il vient plutôt au niveau des régions, parce que... Son directeur de cabinet m'avait dit, vous rendez compte, si Pierre Gattaz va dans chaque département, à chaque assemblée générale, il ne va plus faire que ça jour et nuit.
Mais l'Eure-et-Loire a été...
Mais l'Eure-et-Loire a été... Bon, nous bénéficions un tout petit peu de la proximité de la région parisienne, mais tout de même, je ne suis pas sûr qu'il soit venu en Corrèze. Mais voilà, je n'ai rien contre les Corréziens.
En tout cas, vous êtes très actif, parce que... Alors, excusez-moi,
vous aviez... Donc, nous organisons des visites pour nos adhérents, donc les chefs d'entreprise, les entreprises qui sont nos adhérentes, 3 ou 4 fois par an, au MEDEF National, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. Avec un déjeuner avec Michel Guilbault, qui est le directeur général de tous les services du MEDEF. Une fois, nous avons eu Laurence Parisot, qui déjeune avec nous. Là, je crois que la prochaine visite est le 9 octobre, et nous aurons Pierre Gattaz, qui viendra avec nous. Et ensuite, pour rencontrer les directeurs des différents services, fiscalité, relations avec le Parlement, droit du travail, pour que nos adhérents comprennent, eux qui sont loin, par définition, dans leur entreprise sur le terrain, qui parfois entendent parler du MEDEF sur la télévision nationale, mais qui n'imaginent absolument pas ce qu'il peut y avoir derrière. Parfois, les critiques. Moi, je reçois en tant que président du MEDEF de vertes critiques parfois de chefs d'entreprise adhérents qui disent « Mais que fait le MEDEF ? Pourquoi les choses ne bougent pas plus que ça ?» Comme si le MEDEF avait le pouvoir du gouvernement en France. Je réponds hélas...
Mais que fait le MEDEF ?
C'est une question forte. Et je réponds, vous n'avez qu'à voir ce que fait Pierre Gattaz. Il défraie assez la chronique
en ce moment,
pour éviter de dire qu'il ne fait rien.
Par définition, ça ne peut pas dire ça.
Il y a peu de présidents qui ont été aussi présents, aussi enthousiastes, mais aussi demandeurs, je veux dire, dans le passé. Et je ne parle pas de droite ou de gauche, puisque nous avons eu des périodes également de gauche, avec des présidents de MEDEF ou de CNPF, qui étaient évidemment beaucoup moins présents.
Il y a un MEDEF...
Donc, il y a des directions par fonction très précise, avec un certain nombre de cadres salariés qui préparent, qui aident à préparer toutes les mesures qui concernent l'entreprise, évidemment, pas celles qui ne concernent pas l'entreprise. Je veux dire qu'il n'y a pas de spécialiste du MEDEF des points de permis de conduire, c'est pas le souci. Mais les sujets sont vastes, vous imaginez bien, et touchent également la fiscalité. Donc, ces gens-là sont organisés au sein de commissions. Les commissions sont présidées par des chefs d'entreprise et non pas par des permanents. C'est assez important. Pierre Gattaz le rappelle à chaque fois. Il n'est pas question qu'un permanent parle au nom du MEDEF. Il ne fait que préparer. Il y a donc des présidents de commission, des illustres présidents parfois connus du grand public, qui président des commissions, qui sont très actifs, qui prennent beaucoup de leur temps pour faire avancer les choses. Que là, en ce moment, ça devient particulièrement urgent.
Alors, donc, MEDEF national, mais il y a aussi un MEDEF international.
Oui, alors il s'agit d'une commission un peu spéciale qui, pour des raisons de communication évidentes, s'appelle MEDEF international, plutôt que commission internationale du MEDEF. Là, c'est une commission très intéressante, alors qui s'est organisée sous forme d'association, parce qu'ils font des actions à l'étranger. Donc essentiellement, c'est se mettre en rapport avec nos homologues dans chaque pays, et pas seulement d'Europe, mais du monde, de provoquer des colloques, des forums, des lieux de réunion des chefs d'entreprise, en fait adhérents les uns au MEDEF pour les Français et les autres à leur propre organisation équivalente à celle du MEDEF. Et ça permet de nouer d'abord des dialogues du type « pour les charges sociales, vous faites comment chez vous ?» mais également de nouer du business, comme on dit, tout simplement. Donc c'est un lieu de rencontre. Également, le MEDEF international invite à Paris, il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons une invitation d'un ambassadeur de tel pays, du chargé d'affaires économiques de tel pays, au MEDEF avenue Bosquet, et chaque adhérent au MEDEF de quelques régions ou des pays soit peut venir. Donc il y a toute une somme de services gratuits, je dis bien gratuits, puisque c'est en contrepartie de la cotisation qui, elle, est en fait globale. Si on n'utilise pas les services du MEDEF, une cotisation est toujours trop chère. Si on l'utilise, alors certains me disent, je suis bien content, parce qu'un avocat m'aurait coûté X milliers d'euros. Là, j'ai eu exactement le même service, j'ai eu mon rapport, et c'est dans ma cotisation. C'est un côté, en dehors de l'appartenance à ce mouvement, qui est très forte.
Si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec François-Xavier Huy, qui est président du MEDEF Eure-et-Loir, vice-président du MEDEF Région Centre et vice-président de l'UIMM. Alors, nous avons évoqué dans une première partie ce qu'était le MEDEF national, même international. Nous arrivons maintenant au MEDEF centre. Et puis, justement, je dis centre parce que vous êtes président du MEDEF de la région centre. Et
vice-président.
Ça, vice-président. Pardon. Et ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau
tout à fait,
qu'un
oui.
président de l'Eure-et-Loire soit vice-président oui. du MEDEF.
Depuis l'organisation du MEDEF ou de ce qu'on appelait auparavant le CNPF, au niveau de la région, c'est-à-dire depuis la création des régions en 1972, oui. il n'y avait jamais eu de vice-président provenant de l'Eure-et-Loire. Je souligne au passage d'ailleurs que l'Eure-et-Loire est particulièrement mise à l'honneur puisque notre actuel président de l'UMM Eure-et-Loire vient d'être nommé président, lui, de l'UMM régional depuis quelques jours,
c'est
quelques
Monsieur
semaines,
Figuel.
Monsieur Daniel Fillon. Donc, l'Eure-et-Loire est doublement représentée.
Monsieur Fillon, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps.
Oui, mais à l'époque, il n'était peut-être
pas encore.
Voilà.
Donc, c'est bien de le dire.
Oui, oui,
et
tout à fait. Et je suis très fier parce
temps,
que Monsieur
oui.
Fillon est l'un des vice-présidents du MEDEF Eure-et-Loire par définition, puisque les présidents des deux branches principales que sont la métallurgie et le bâtiment sont d'office statutairement vice-président du MEDEF départemental. Alors ce qui est important de souligner, c'est que le rôle du MEDEF, comme celui d'autres institutions, va évoluer dans les années à venir d'une façon rapide.
Très important.
Je pense qu'il faut le dire. Jusqu'à maintenant, l'organisation MEDEF Région Centre servait essentiellement à une seule chose, à traiter de la formation. Comme vous le savez, ce sont les régions qui sont, comment dire, responsables du chapitre formation. J'entends formation hors école, c'est-à-dire les formations AFPA, les formations d'apprentissage, toutes les formations continues, etc. La région intervient soit directement, soit en subventionnant, généreusement ou pas, mais subventionnant toute initiative concourant à faire de la formation sur les 6 départements, enfin, ou les autres régions, mais parlons de la région centre, sur les 6 départements de la région. Donc, le MEDEF Région Centre servait à dialoguer avec la région pour exprimer les besoins de formation de nos entreprises, pour dire il faudrait contribuer à pousser plutôt une formation de ce type plutôt qu'une autre, etc. C'est tout. Grosso modo, c'est tout. Mais chaque MEDEF territorial, c'est-à-dire chaque MEDEF départemental, gardait son autonomie complète, notamment en termes de communication, ce qui veut dire qu'on observait encore jusqu'à maintenant, d'une façon très récente, une déclaration du président du MEDEF Touraine qui pouvait parfois contredire celle de la déclaration du MEDEF Eure-et-Loire deux jours après dans un autre support. Ou pas de déclaration du tout, alors qu'il y avait un sujet national important, mais pour des raisons diverses, le président du MEDEF du département avait considéré qu'il n'était pas utile de faire une déclaration, alors qu'à côté, parfois à quelques kilomètres, la frontière, on disait « mais comment se fait-il que j'ai une pleine page dans le journal local sur le président du MEDEF et j'ai rien dans mon département ?» Jusqu'à maintenant, c'était ça. Ça ne sera plus tout à fait ça. Vous le savez, le poids des régions va grandissant dans l'organisation territoriale, au détriment, bien entendu, des départements. Et ceux qui disent le contraire mentent, il faut le dire. Les départements vont rester. Oui, ils vont rester en tant que petites frontières, mais vidés totalement de leur substance. Et on va le faire progressivement. Il n'y aura pas de grande révolution. On ne va pas dire lundi matin, le département ne traitera plus des collèges, ne traitera plus du développement économique de son territoire. Non, ça va se faire par petits bouts. Alors, il y a deux bénéficiaires de cette organisation territoriale. Et nous, au MEDEF, on est particulièrement attentifs, mais on accompagnera, bien sûr, cette organisation. Pierre Gattaz a d'ailleurs dit qu'aujourd'hui, il y avait 24 présidents de MEDEF régionaux en France, avec l'Outre-mer. Demain, il y en aura 12, 13, 14. Ça sera immédiat.
Ah oui.
Il n'y aura pas d'histoire de dire « Ah oui, mais moi, je suis président depuis longtemps, non. Je voudrais bien garder. » Non. Il dit « On va se coller à l'organisation régionale, administrative. » On ne va pas lutter contre l'État qui aura voté démocratiquement, après tout, cette organisation régionale. Donc, en ce qui concerne la région centre, semble-t-il, la région ne change pas. Ça va être beaucoup plus simple et facile. Mais le MEDEF région centre va avoir un rôle grandissant sur les aspects de l'entreprise, et notamment en termes de développement économique. Comme vous le savez, il y a parfois des organismes qui dispensent des subventions pour tel et tel investissement. Aujourd'hui, les subventions peuvent venir de l'État via Bruxelles, enfin via l'Europe, venir d'une communauté d'agglo, peuvent venir du département, je pense à notre CODEL. Après tout, et je le dis aussi tout à fait officiellement, on n'a pas beaucoup d'avenir dans la nouvelle organisation. Il est impossible de maintenir ce type d'organisation alors même que c'est la région. Alors le gros défaut de ça, et c'est pour ça que nous tenons au MEDEF, et Pierre Gattaz l'a d'ailleurs rappelé, c'est pas pour autant qu'on va supprimer les MEDEF départementaux. Il faut une présence. Il faut une présence locale qui servira tout de même aux deux tâches que nous avons, qui sont la communication locale, parce que, si vous voulez, traiter d'un problème qui concerne Dreux, je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les gens de Châteauroux ou de Blois. Donc, il faut conserver avec la presse locale, il faut conserver une communication locale. Et deuxièmement, il y a déjà, je le disais tout à l'heure, 400 mandats générés, chapeautés par le MEDEF sur le département d'Eure-et-Loire. C'est pas pour ça qu'en région, il va y avoir 6 fois 400. Non. On va justement réduire le nombre de mandats. Mais n'empêche que quand le président du MEDEF Région Centre demandera à tous les territoires, j'aimerais avoir 10 chefs d'entreprise représentatifs pour siéger au comité économique et social, pour siéger à la caisse URSSAF. Lui, du fond de son bureau à Orléans, même s'il a un bon réseau sur son département, comment voulez-vous qu'il aille chercher des gens en Eure-et-Loire, des gens en Indre-et-Loire ? Il faudra bien donc que nous restions une organisation forte. Alors ensuite, le MEDEF, je le disais aussi, mais je le répète, est le fédérateur, si on peut dire, des fédérations. C'est-à-dire que tant qu'on a une UMM, une fédération du bâtiment, qui a un rôle de gestionnaire et de négociateur de conventions collectives avec les syndicats de salariés, que je sache, on n'a pas envisagé de supprimer cette organisation. Il faut bien un organisme, comme le MEDEF, qui unisse toutes ces fédérations, qui ont parfois des intérêts divergents entre la météorologie et le bâtiment. C'est sûr qu'il est. Mais nous devons avoir une voix commune quand il s'agit. Eh bien, quand il s'agit des problèmes que nous connaissons, du temps de travail hebdomadaire, quand il s'agit de l'ouverture le dimanche, on pourrait dire que ça n'intéresse pas la métallurgie. Mais en fait, si, puisqu'il y a des usines métallurgiques qui fabriquent des produits censés être vendus le dimanche, je pense au magasin de bricolage notamment, enfin, il y a des conséquences partout. Donc le MEDEF territorial doit rester l'organisation qui, de toute façon, sera le fédérateur des fédérations et donc des branches. Donc oui, le MEDEF a de l'avenir en tant que tel, même si l'organisation territoriale, je répète, change. Mais en ce qui concerne le MEDEF Centre, nous aurons la même région. Cela dit, jusqu'à nouvel ordre, parce que tout est possible lors des votes de l'Assemblée, comme vous le savez.
Oui, mais enfin, je ne pense pas que maintenant, il y a assez de problèmes comme ça.
Mais il y a des régions qui ont des soucis à se faire, puisqu'ils sont découpés, comme vous le savez, d'une autre façon. Mais nous avons failli devenir Limoux-Chantre.
Oui.
Avec le Limousin. Alors là de Dreux jusqu'à La Rochelle, moi, j'avais déjà dit, si je suis un jour vice-président du MEDEF régional, je ne suis pas prêt d'aller passer les après-midi à La Rochelle pour une réunion.
C'est pas possible.
Alors je vais rentrer à quelle heure?
C'était
inenvisageable. La raison l'a quand même emporté.
Voilà. Oui. Alors, une autre question. Quand il y a des entreprises, par exemple, qui sont en Eure-et-Loire, qui ont d'autres entreprises à l'étranger, comment ça se passe ?
Ah bien, à l'étranger, ça va encore, c'est plutôt celles qui ont des établissements dans d'autres départements. Alors, qui cotisent pourquoi ? Alors là, il y a deux manières de voir les
cotisations, si on n'en a pas parlé. C'est relatif
au nombre de personnes.
D'employés qui sont dans
l'entreprise. Enfin, au nombre de personnes. Soit des MEDEF territoriaux, ce qui n'est pas encore notre cas, mais ce qui va être le cas bientôt. Les cotisations sont basées sur des millièmes, d'ailleurs, il ne s'agit même pas de pourcents, des millièmes de la masse salariale, en général plafonnée. Soit c'est fixé par rapport au nombre de personnes employés par tranche. Bon, nous, c'est par nombre de personnes employées. Donc, pour vous donner une petite idée, il y a une cotisation minimum quand même. Une entreprise de 3 personnes, on a quand même des adhérents avec des entreprises de 3 personnes, paye par an 700 euros hors taxe par an pour cotiser au MEDEF. C'est la cotisation minimale. Mais certaines grosses entreprises payent beaucoup plus. Mais je répète, tout dépend de ce qu'on utilise comme service. Si on considère qu'une consultation d'avocat vaut déjà les 700 euros, je crains qu'ils soient déjà consommés. Donc, de toute façon, le problème est réglé. Et sinon, on n'aurait pas d'adhérents. Oui. S'ils considéraient que les services n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on
leur apporte. Mais toutes les entreprises font partie du MEDEF.
Non, beaucoup d'entreprises ne sont pas cotisants au MEDEF. Un des rôles des permanents du MEDEF, que ça soit,
c'est de chercher des
adhérents. Puisque, encore une fois, l'UMM non plus, d'ailleurs.
En Eure-et-Loire, il y a quand même beaucoup d'entreprises.
Oui, mais enfin, vous avez la CGPME, qui est une représentation patronale. Vous savez, il y a 3 organisations patronales dites représentatives, comme nous avons 5 syndicats dits représentatifs. Les 5 syndicats de salariés, on les connaît. CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC. Eh bien, du côté patronal, même chose. Il y a le MEDEF qui, lui, est omniprésent, beaucoup plus important, la CGPME et l'UPA, l'Union professionnelle des artisans, qu'on oublie un peu vite.
Oui, là, on n'en a pas parlé. Non.
Oui, mais non, mais oui. ce sont nos associés, nos collègues. Chacun des 3 a vocation à signer des accords interprofessionnels. Et il se passe parfois le cas, vous savez, on dit toujours, tel syndicat de salariés n'a pas voulu signer l'accord. Souvent la CGT, je dois le dire, qui refuse de le faire. Bon, très bien, pour des tas de raisons. bien que sur le plan local, ils signent des accords. Je veux dire, c'est sur le plan national parce que c'est de la communication. Eh bien, nous avons parfois des organisations patronales qui refusent également de signer un accord. Et nous avons parfois une signature que du MEDEF. La CGPM et l'UPA ont refusé de signer.
Ah, oui.
L'accord s'applique quand même, puisqu'on a quand même une grosse... Mmh.
Que le MEDEF, c'est quand même le plus important.
Bien sûr. Mais il y a deux autres organisations patronales, plus ou moins concurrentes. Il y a parfois des entreprises qui adhèrent aux deux, parce qu'elles ont un service différent, parce qu'elles considèrent que, bon, les entreprises qui ont les moyens, qui disent, allez,
oui,
hop, je paye deux cotisations.
C'est quand même une grosse oui. association, parce que
oui.
un JESA, ça, pour l'université d'été, il y a 7000 personnes.
Ah oui, tout à fait, avec un budget que vous imaginez colossal, parce que, je sache, vous n'avez pas payé grand-chose ou rien du tout.
C'est-à-dire
non, c'était gratuit. Enfin, c'est sur invitation, mais ce que je veux dire...
C'est sur invitation si on est membre du MEDEF.
Il y a un très gros budget, mais cette manifestation, puisqu'on en parle rapidement,
oui.
est extrêmement importante en termes de communication.
Ah, oui.
Et la preuve, on y reçoit des gens prestigieux, y compris oui. le Premier ministre, et les discours sont relayés d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas un autre endroit
non,
où ça soit possible.
C'est vraiment la presse a Tout vraiment donné...
Il y avait 200 journalistes accrédités, vous vous rendez compte, 200 journalistes, y compris l'étranger.
Eh bien, un grand merci. Nous avons,
merci.
Je crois, une bonne idée de ce qu'est le
bon,
MEDEF.
Ben, oui.
On pourra réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, François-Xavier.
Merci, Christiane Blas.